L'idée ici, c'est pas de pas de faire un constat de est-ce que l'extrême droite est présente dans l'espace politique, parce que je pense qu'on est tous et toutes convaincus que c'est le cas. Je pense que les exemples se multiplient, que ce soit des exemples au niveau de réalité politique, statistique, lorsqu'on sait que 20% des électeurs flamands votent pour le Vlaams-Belang, que le cordon sanitaire politique a été brisé dans plusieurs communes de coalition où le Vlaams-Belang est rentré dans des coalitions communales, où le Vlaams-Belang a reçu aussi la majorité absolue dans la commune de Lommel, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Au Parlement européen, on peut prendre aussi des exemples où 25% du Parlement européen est composé actuellement de partis soit de droite radicale conservateur, soit d'extrême droite directement. De manière générale et de manière plus précise en Belgique francophone, on a quand même notre clown national qui est Georges-Louis Boucher et qui reprend, cumule les polémiques autour de déclarations qui sont quand même d'un discours de réappropriation des discours qu'on entend de l'extrême droite. Sans plus vous tarder, je vais je vais demander aux intervenantes de se présenter. Aussi aujourd'hui, on a du coup l'assurance d'avoir Selma Ben Khalifa, Denis Akbaba et Juliette Léonard. Et du coup, comme première question, je vais vous demander de vous présenter un peu le monde associatif ou politique de lequel vous venez.
Je m'appelle Selma Ben Khalifa. Moi, je suis avocate à Bruxelles depuis 2001, donc 24 ans. Et je viens parler de la montée de l'extrême droite du point de vue des avocats, puisqu'on a vu toutes ces années et les droits des étrangers être de plus en plus mis à mal. L'état de droit est de plus en plus mis à mal et je travaille beaucoup sur les questions de violence policière et c'est vraiment là où on sent tout le pouvoir qu'a l'extrême droite, tout le pouvoir qu'a le racisme, puisqu'il ne faut pas oublier que le racisme institutionnel, c'est le racisme qui est au pouvoir. Si quelqu'un est raciste et n'a pas de pouvoir sur vous, vous pouvez y être indifférent. Si quelqu'un est raciste, qu'il est policier, qu'il est armé, qu'il est dans un commissariat et qu'il vous prive de votre liberté, ça devient votre problème.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Denis Akbaba, je suis une femme kurde, j'ai plusieurs casquettes, je travaille comme permanente syndicale à l'FGTB, je fais aussi partie d'une une groupe d'activistes qui s'appelle Headquarters of the Movement Autumn. Et je fais aussi des études sur les économies locales basées sur la décroissance que j'analyse à travers des mouvements de souveraineté alimentaire. Je regarde le point de vue de droite et extrême droite dépendant de ces différentes casquettes. Mais aussi par un spectre décolonial. Et on va en revenir tantôt, mais ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, que ce n'est pas forcément des gens qui adhèrent à des partis de droite ou d'extrême droite, mais que c'est surtout au niveau législation que tu vois que notre système actuel atteint encore un système colonial et fasciste et que aussi des partis de centre et de gauche y participent volontairement sans se rendre compte ce qu'ils mettent en place.
Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Juliette. Je suis chargée de recherche au CVFE. CVFE, c'est le collectif contre les violences familiales et l'exclusion. Rapidement, on a un collectif qui est basé à Liège, qui lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Juste un peu vite fait, parce que l'histoire, je la trouve intéressante du CVFE et on comprend pourquoi, du coup, je me retrouve aujourd'hui à vous parler d'extrême droite. Initialement, le CVFE, c'était un refuge pour femmes battues. Et c'était vraiment dans les années 70, ça s'est créé dans la vague féministe matérialiste où des femmes se sont dit « Ok, on va héberger des femmes qui fuient des violences ». Et progressivement, le CVFE s'est institutionnalisé et il y a d'autres services qui sont rajoutés. On a un service pour d'insertion socio-professionnelle pour accompagner des chômeuses. On a un service d'éducation permanente dans lequel je travaille. On est en collaboration avec la SBL Praxis qui fait de la responsabilisation pour auteurs violents. Enfin, en fait, on fait beaucoup de choses. Et donc, dans le service d'éducation permanente, moi, c'est celui dans lequel je travaille, on a vraiment cette idée d'avoir une image très globale des violences conjugales, de vraiment les inscrire dans un contexte inégal, un contexte sexiste sur lequel on veut agir à différents niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je me suis retrouvée à écrire des textes sur l'extrême droite et les femmes, et aussi l'extrême droite, qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que travailleuse d'éducation permanente. À mon avis, là-dessus, on va peut-être se rejoindre toutes les deux sur ce genre de... Ils sont pas totalement perdus, quoi. Et donc, voilà, quoi. Pour nous, c'est important de réfléchir à tous ces sujets qui nous concernent. Et c'est sûr que l'impact de l'extrême droite sur les femmes et sur les associations comme la nôtre, ça risque d'être quelque chose, quoi.
Merci beaucoup. Selma, je voulais te poser une question. Je me demandais si, vu que tu es quand même... connue et reconnue comme étant une militante, mais aussi une personne engagée sur les questions justement d'antiracisme et de manière générale sur la question de la fascisation de la société de manière générale. Et est-ce que tu as un élément en tête, un moment où il y a eu un flash, où tu t'es dit, là, à ce moment-là, c'est évident, on est dans une société où l'extrême droite est présente, où est-ce que la fascisation, en fait, c'est maintenant, elle est en cours?
Ce que je trouve très perturbant dans la société francophone, intellectuelle, belge, c'est que tout le monde, ou en tout cas beaucoup d'intellectuels, trouvent que quand même la NVA, c'est pas l'extrême droite. Il y a une différence. On peut pas comparer complètement le Vlaams Belang et la NVA. Et il y a quelques années, à Leuven, il y avait eu une mosquée qui avait été attaquée. Et les gens qui avaient attaqué cette mosquée avaient tagué sur la mosquée une croix gammée et STEM NVA à côté de la croix gammée. Et tu te dis, mais peut-être que toi, dans ton bureau d'intellectuel à l'ULB, tu trouves qu'il y a une différence entre la NVA et le Vlaams Belang et entre la NVA et les nazis, mais visiblement, les militants de la NVA ne partagent pas ton point de vue. Encore, quand la NVA a gagné des élections et s'est retrouvée, on a un premier ministre NVA, qui a été félicité par Mélanie, on entend encore des intellectuels de gauche dire « on a échappé à un dimanche noir ». On aurait pu avoir le Vlaams Belang. Heureusement que on n'est pas comme en Italie où ils ont Meloni. Nous, on n'a que Bart De Wever. Ils font partie du même groupe, ils s'aiment bien, ils partagent les mêmes valeurs, ils écrivent sur les réseaux sociaux qu'ils partagent les mêmes valeurs. Donc, je ne comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que Bart De Wever et Meloni, ce n'est pas pareil, puisque eux-mêmes se trouvent pareils? Il a aussi reçu les félicitations de Marine Le Pen. Il est d'accord récemment avec Viktor Orban sur le fait que fuck la CPI, si Netanyahou vient, on peut très bien l'accueillir sans l'arrêter alors qu'il y a un mandat d'arrêt. Enfin, je veux dire, il y a tous les indicateurs pour dire qu'on est gouverné par l'extrême droite. Et pourtant, j'ai l'impression que dans la société en général, on ne prend pas la mesure du fait qu'on est dans un pays gouverné par l'extrême droite.
Merci beaucoup. Effectivement, il y a une continuité qui se fait de manière générale entre... les personnes ont tendance à invisibiliser la continuité qu'il existe entre la NVA et le Vlaams Belang, qui ne voient pas le lien entre la montée de la NVA et la montée de l'extrême droite. Et du coup, Denise, est-ce que pour toi, il y avait aussi ce moment de flash, est-ce qu'au niveau des élections législatives, est-ce que tu as vécu ce même moment de flash avec la montée de la NVA ou tu as un autre événement marqueur qui t'a fait sentir que l'extrême droitisation de la société, du monde politique est présent actuellement?
Je pense qu'il y a une différence entre ce que Selma a dit, que le pays est géré dans les mains de droite et extrême droite, mais le système de droite et extrême droite qui était toujours en place, et ça c'est notre système actuel. Pour moi, c'était pas choquant dans le sens que mes parents étaient des militants kurdes et qui m'ont toujours appris, en fait, le caractère, le vrai caractère de l'Europe, en fait. Et pour comprendre la création de l'Europe, allez, quand les activistes disent souvent Europe, les fondements de l'Europe, c'est le colonialisme, c'est vrai en fait. Et, mais malheureusement, pas beaucoup de gens comprennent ce qu'il veut dire par rapport à ça. Et il faut, ça, il faut connaître que quand on a créé l'espace économique commun, CEE, c'était plus ou moins la même période que tous les pays coloniaux ont pris leur indépendance et qui se sont concentrés dans la conférence de Bandung. Et c'est surtout les pays comme l'Italie, la Belgique, etc., qui avaient perdu leur colonie et qui étaient un peu en peur en disant que comment on va garder notre accès à ces pays. Et de deuxième côté, à ce moment-là, tu avais l'esprit qui s'appelait Afrikaner à l'époque, et ça venait de l'Allemagne, et c'est vraiment une philosophie, une idéologie raciste qui dit que l'Europe, c'est la tête, et nous, on peut avoir accès aux ressources de l'Afrique, et l'Afrique, grâce à cet échange, elle pourrait avoir accès à notre culture et éventuellement se développer. Alors, cette continent, elle est basée d'un côté sur le colonialisme et de l'autre côté sur le racisme et même le fascisme pour moi. Alors, évidemment, on pense que c'est un truc du passé, mais c'est pas un truc du passé, c'est encore très actuel et ça se voit encore dans les accords qui se font au niveau européen. Surtout comme jeune public d'une partie verte écologiste, vous devez vous rendre compte à quel point le système qu'on vit dedans est tenu en place aussi par des parties vertes. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le Green Deal. Le Green Deal, c'est simplement comment on va transformer l'Europe dans un continent plus durable, surtout au niveau énergétique. Mais cet accord Green Deal n'existe pas sans le Critical Raw Material Act. C'est en fait un accord qui s'est fait entre les partis au Parlement Europe, et qui s'agit de où on va chercher notre ressource critique en fait. Et quand tu regardes cet accord, le caractère de cet accord, elle est raciste, elle est fasciste, parce que c'est vraiment juste pour s'assurer de nouveau en plus le caractère colonial de l'Europe. Pour qu'à la fin, l'Europe vient, soi-disant, le continent où tout se passe bien, entre parenthèses, hein, parce qu'après, on peut voir que dépendant de la classe, de ton intersection, d'où tu viens, t'es situé sans papier, avec papier, si tu es issu d'immigration, c'est pas le paradis non plus. Mais vis-à-vis des autres pays, on voit que l'Europe veut vraiment aller coloniser les autres pays, et tu vois ça quand tu vas une fois voir les photos sur les mines de lithium, par exemple, tu vois que c'est vraiment la catastrophe. Alors pour moi, la droite et l'extrême droite, elle a toujours existé, sauf que évidemment, tu les détectes beaucoup plus vite quand tu viens d'une autre culture, parce que tu vois très vite ce qui se passe à cause de l'Europe dans l'autre bout du monde. Alors, tu peux pas te dire que, à un moment donné, l'Europe était de gauche. Elle n'était pas du tout, parce que ça a toujours fonctionné sur l'exploitation des autres personnes.
Merci beaucoup. Oui, en fait, je plus sur plus fortement ce que tu dis. J'ai l'impression que, du coup, la présence de l'extrême droite en Europe, elle est vraiment à l'essence même du continent européen. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence du coup dans le champ politique et médiatique actuellement? Et du coup, ça me renvoie du coup à la question de est-ce que du coup, si l'extrême droite a toujours été présente dans l'espace européen, qu'est-ce qui fait qu'elle s'exprime plus? C'était aussi l'objet de la conférence. Est-ce que la gauche, du coup, a abandonné certains sujets? Est-ce que c'est la gauche qui, justement, est responsable de la dédiabilisation de l'extrême droite? C'était une question d'invitation à se remettre en question. Et je propose à Juliette d'y répondre si...
Moi, je l'ai surtout pensé la question par rapport toujours ce truc d'éducation permanente, beaucoup plus sur pourquoi il y a un électorat d'extrême droite. Du coup, j'aurais peut-être pas exactement les mêmes analyses, mais tant mieux, c'est cool, on a des angles d'approche assez différents, quoi. Je pense, du coup, sur la gauche qui aurait abandonné ou pas des combats. Avant, j'avais juste envie de remettre quand même effectivement un contexte qui, je pense, c'est pas un contexte hyper favorable à la gauche là actuellement. Je pense que tout le monde l'a un peu remarqué, mais je pense que c'est bien de remettre dans un cadre historique en fait que oui, on est dans une période post-chute du mur de Berlin. Je pense que les gauches, l'image de la gauche en ont pris un gros coup. En plus de ça, on se retrouve un peu dans un espèce de contexte, c'est la fin de l'histoire, il n'y a pas d'alternative. Et donc on est quand même aussi depuis les années 70 dans un contexte néolibéral qui globalement met une déstructure complètement les individus et met une importance vraiment sur la responsabilité individuelle. Et donc je pense que c'est déjà pas un contexte super que pour que puissent émerger des idées de gauche, quoi. Je pense aussi, pour remettre sur le contexte, ça me semble quand même important de dire que autant l'extrême droite, on va en parler peut-être après, les partis d'extrême droite, ils galèrent à trouver des militants. Enfin, c'est un peu le propre de tous les partis politiques actuellement. Mais enfin, moi, j'avais été tractée, par exemple, avec le NFP en France, et je me suis retrouvée dans ces villages où, en fait, l'extrême droite est en tête, alors que personne connaissait leur candidate, ils n'ont pas vraiment de militants. Mais par contre, l'extrême droite, ils ont vraiment des militants de poids, du genre Elon Musk, Bolloré. Et c'est vrai que quand t'as des milliards et des médias comme ça, je pense que du coup, pour pas tout remettre sur la gauche quand même, le contexte est hostile, quoi. Je pense aussi, du coup, avec cette perspective qui est de voir par rapport aux électeurs, c'est bien d'avoir en tête que les électeurs qui se tournent vers l'extrême droite, pour la plupart, ils viennent de la droite. C'est des déçus de la droite. Parce qu'on a souvent cette image des bastions ouvriers qui sont passés du communisme à l'extrême droite. Et c'est vrai que ça existe, et je vous invite à lire le livre de Didier Ribon, Retour à Reims. En fait, c'est très bien. Il y a cette partie où il montre comment, quasi de manière naturelle, du coup, avec plein de guillemets, sa famille qui était de gauche est passée à l'extrême droite. Mais ces exemples, c'est pas ce qui représente le plus gros des troupes des militants d'extrême droite, quoi. Donc, des électeurs d'extrême droite. Donc, c'est pas des gens que nous, on a perdu, quoi. Bon, ça, c'était pour les petits disclaimers. Néanmoins, évidemment, je pense que comme personne de gauche, militant dans des partis, organisations ou quoi, ça doit nous interpeller que l'extrême droite monte en temps et qu'en plus qu'elle soit aussi populaire dans les milieux justement ouvriers, plus précaires, plus populaires, et qu'il y a une partie où on doit se remettre en question. Alors moi, ce que j'avais envie de souligner aujourd'hui, je me base un peu sur les livres de Matteo Alalouf, qui est chercheur à l'ULB, et Olivier Starkey, qui travaille à la FGTB, je ne sais plus où à la FGTB, mais en tout cas qui est militant syndicaliste, et qui font un peu des constats que, effectivement, il y a une partie de la gauche qui a abandonné des combats et qui a creusé la distance qu'on peut avoir entre les partis de gauche et une partie de la population. Je pense qu'une première chose que j'avais envie de souligner, c'est vraiment le manque de représentation des personnes des classes populaires dans les partis de gauche. Bon, c'est pareil à nouveau, on peut le voir dans tous les partis, mais c'est sûr qu'en fait, du coup, il y a ce manque de représentation, et c'est pas juste la représentation que ça manque, qu'il y a un problème, c'est vraiment le fait qu'en fait, du coup, les questions, les préoccupations quotidiennes de personnes qui galèrent, en fait, vont pas spécialement se retrouver mises en avant par certains de ces partis. Au-delà de ça aussi, il y a une partie de la gauche qui a vraiment favoriser un combat qui est parlementaire plutôt qu'un combat qui est sur le terrain. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, moi, je pense, et ça, c'est aussi ma casquette un peu éducation permanente, mais que c'est primordial, en fait, d'avoir des personnes qui se retrouvent sur le terrain, qui luttent ensemble. Et je pense que toutes les personnes qui ont participé ici à des mouvements sociaux voient à quel point c'est un facteur de politisation. Je pense à quel point aussi tu rencontres d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes origines que toi, mais tu te rends compte que, justement, tu as des mêmes intérêts, que tu as des mêmes galères, que tu partages un même quotidien. Et donc ça, je pense que c'est quand même des trucs qui sont cruciaux et qu'une partie de la gauche, malheureusement, n'est beaucoup moins sur le terrain. Et donc tout ça, c'est sûr que ça avive un sentiment de décalage entre les partis dits traditionnels et une partie de la population. Et c'est vrai que chez les militants, enfin chez les électeurs d'extrême droite, pardon, en plus vraiment, c'est important pour moi de vraiment les distinguer. Et quand je parle, on reviendra après, mais pour moi c'est plus sur les électeurs que j'ai envie de me concentrer. Mais il y a vraiment cette idée de, ben oui, on a tous essayé, gauche droite, c'est pareil. Et ça, c'est un problème, quoi. Et donc je pense que le pire qu'on a pu faire, c'est que les partis de gauche ont pu participer à des politiques néolibérales, justement. Je pense que si on regarde, en fait, les dernières années, les dernières choses qu'on a votées, on a participé à détruire des services publics. Il y a des partis qui ont renvoyé des chômeurs. Il y a des partis qui ont participé à des politiques de précarisation, des politiques qui aggravent nos conditions de pension. Et en plus, du coup, tout ça, ça a participé à un sentiment vraiment... Moi, je lis un peu vraiment ce truc d'insécurité sociale qui vient en réaction au fait que, ben oui, tout est déstructuré autour de toi, tu peux plus vraiment faire appel aux services publics, à la sécurité sociale, parce que c'est de moins en moins efficace, quoi. Et donc, tout ça, c'est vrai que c'est un constat, après, que je vais un peu, quand même, à la prochaine question, dire que, OK, il y a tout ça, mais n'empêche, c'est pas parce que des gens se détournent de la gauche que les idées de gauche ne continuent pas à vivre. Et ça, je pense qu'on voit quand même plusieurs sociologues ou quoi qui vont le dire. Les idées de gauche sont toujours présentes. Il y a toujours des envies de justice et d'égalité, mais elles se traduisent malheureusement moins vers des partis de gauche, quoi.
Merci beaucoup. Selma, toi qui as une double casquette, parce que tu es avocate dans le barreau, dans la défense justement de personnes victimes de violences violence policières, et tu as aussi une casquette notamment au front de mer. Est-ce que c'est aussi un constat que tu partages, notamment sur le fait que la gauche aurait abandonné certains sujets de gauche et qui permettrait la montée de la droite et de l'extrême droite?
Mais je pense que elle a abandonné certains sujets et même dans son mode de fonctionnement. Je vais vous donner une image qui est un peu une caricature. Et donc, il ne faut pas le prendre mal. Disons que la politique, c'est un match de MMA. L'arbitre, c'est un ex-champion de MMA. L'extrême droite et la droite, elle envoie son champion de MMA. Et Écolo vient en mode... Je respecte les règles de la boxe française. Et il se fait défoncer. Le PTB vient en faisant, moi, je fais du catch. Ça ressemble au MMA. Ça fait beaucoup de spectacles, mais c'est des faux coups. Et il se fait défoncer. Et le PS vient en disant, bon, les deux autres se sont fait défoncer, moi, je vais essayer de payer l'arbitre. On a besoin d'un champion d'MMA, d'un champion d'MMA de gauche, mais d'un champion d'MMA. Et on n'en a pas pour le moment. On fonctionne avec des règles qui fonctionnent tant qu'on est entre gens bien, mais qui ne fonctionnent pas face aux salauds qu'on a en face. Et donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Nos idées de gauche, de toute façon, on est sûr de nos idées, la justice sociale, le fait qu'il faut pas exclure, le fait qu'il faut pas de racisme, le fait qu'il faut être inclusif, qu'on aime bien les handicapés, qu'on a rien contre les homosexuels, tout ça, on est tous d'accord. Mais comment on fait pour, sur la scène politique, gagner des points? On doit, c'est triste à dire, mais apprendre à fonctionner sans règles. Je donne un exemple. Plus réaliste, Theo Franken, qui était ministre, secrétaire à la migration et à l'asile, il a, au moment où il était secrétaire, eu son chef CAB qui a été condamné par la justice. À l'époque où il refusait tous les visas pour sortir de Syrie, c'était la guerre en Syrie, c'était l'horreur totale. Il refusait tous les visas, donc il n'y a pas moyen de sortir légalement de Syrie. Et le chef CAB de Franken s'est fait prendre, il vendait les visas à 15 000 euros. Franken a été embêté par la justice. Il y a eu un projet de demander qu'on se fasse sauter son immunité. Ils ont fait tomber le gouvernement soi-disant sur le pacte de migration, mais ce n'était pas vrai, parce que le pacte de migration de l'époque, c'est celui qu'ils veulent voter maintenant. Ils sont pour. Ils ont fait sauter le gouvernement pour sauver les fesses à Franken, qui devait être jugé. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense. Ça fait peur. Dans un même temps, chez Ecolo, Sarah Schitt a fait un truc, elle a mis son nom sur une affiche pour une conférence sur la déportation des personnes homosexuelles via Malines vers les camps de concentration en Allemagne et en Pologne. Elle pouvait pas mettre son nom parce que c'est du détournement d'argent public. Enfin, c'est le genre de truc que tous les politiciens font. Elle a même pas compris qu'on pouvait pas et tout ça. Et Ecolo a dit, ah non, ça, nous, on est tellement honnêtes, on peut pas tergiverser là-dessus. C'était la droite qui défonçait Sarah et Ecolo l'a laissé tomber en se disant, nous, on respecte les règles de la boxe anglaise. Et pendant ce temps-là, il y avait l'autre salaud qui vendait des visas à des pauvres gens qui devaient fuir la guerre à 15 000 balles. Donc, on fonctionne pas avec les mêmes règles. Ils sont malhonnêtes et nous, en étant extrêmement honnêtes, mais au point d'en être naïfs, on n'a aucune chance dans ce combat des MMA.
Denis, je t'ai vu réagir, en tout cas de manière non-verbale, de manière physique. Je pense qu'il y a des points d'accord et des points de convergence dans ce que tu as entendu. Est-ce que tu voudrais justement réagir sur cette question de la gauche qui aurait abandonné certains sujets au profit de la droitisation et l'extrême-droitisation?
Mais je suis d'accord avec les deux interlocutrices, ça évidemment, sinon on ne sera pas invité ici, on partage quand même les visions. Alors, je préfère surtout compléter en fait, parce qu'évidemment, on parle chacun de notre expertise. Pour moi, l'abandonner, il faut pouvoir faire le bonne analyse du système avant de se rendre compte que tu as abandonné la lutte en fait. Et je pense que pas que, mais surtout aussi les parties vertes comme Ecolo qui n'ont jamais fait la bonne analyse du système en fait. Et on parle toujours, et ça commence déjà à dire, hein, on doit transitionner vers un autre système, même de dire ouvertement on est anticapitaliste, ils osent pas. Ah non, ça peut leur coûter des électeurs. J'ai vu ça aussi chez Groen. C'est, on veut un autre système, mais tu peux surtout pas dire ça. Et là, je pense que si tu ne fais pas une bonne analyse du système capitaliste et ses conséquences, tu ne sais pas ce que tu dois vraiment faire quand tu parles d'un lutte de gauche. Seulement, tu as tantôt dit plein de choses dont tu as dit on est tous d'accord. Effectivement, on est tous d'accord. Mais tout ça, ce sont des systèmes de mécanismes de division, patriarcat, lutte de classe, etc. C'est tous des mécanismes de division pour tenir en place le système qu'on vit dedans, et c'est le capitalisme point barre. Et quand tu parles quelle cause on a abandonné, j'ai déjà mentionné tantôt hein, qu'on va coloniser encore d'autres continents. Moi, je dis toujours que le système, il faut le voir, et ça, malheureusement, les partis de gauche ont une grosse lacune parce qu'ils n'ont pas une réflexe décoloniale. Ils savent pas ce que c'est exactement combattre le white supremacy, etc. Ça veut dire que ton analyse du système doit commencer au endroit où tu vas chercher les matériaux critiques, hein, les ressources naturelles, et ça se termine à la militarisation de tes frontières ici en Europe. Alors, je pourrais donner toute une formation là-dessus à part. Alors, je pense que la grosse ligne qu'il y a eu de tous les partis gauche, c'est la vote sur Frontex. Le Frontex, pour moi, c'est le Gestapo de notre époque, point barre. Il n'y a pas un autre mot à donner à cette formation pour les gens qui ne le connaissent pas, surtout parce qu'on parle beaucoup de défense et de militarisation et d'une défense stratégie européenne. Elle est déjà là, c'est Frontex. Frontex a commencé comme une petite agence quelque part que personne n'en voulait, hein, soyons clairs.
quelque part en Pologne, à Warsaw, c'était pour veiller sur les frontières européennes. Ils pouvaient juste faire acte de présence si un des pays européens demandait sa présence. Depuis la guerre en Syrie, dont tu as mentionné, Frontex, c'est booming business. Booming business, ça veut dire quoi? Je pense que le but, c'est de, en 2027, avoir 10 000 personnes armées sous le parapluie de Frontex. Et ils ont subventionné presque 1 milliard d'euros à base annuelle au niveau européen. Et qu'est-ce que les partis de gauche ont fait? Il y a en juin 2024, ou mai 2024, juste avant les élections, ils ont accepté la présence de Frontex sur le sol belge. Et Frontex, maintenant, elle va donner un coup de main à repatrier des sans-papiers, en fait. Quand leur procédure est finie, ils ont le droit de leur arrêter. Bah, tu connais mieux la loi que moi. On sait très bien qu'ils vont pas donner un coup de main. On a déjà vu dans beaucoup de cas de violence policière que souvent les témoignages des policiers, c'est des mensonges. Il n'y a pas d'autres mots. Et il faut savoir que maintenant, c'est renforcé au niveau européen. On va avoir 10 000 troupes qui dépendent de législation européen, avec un parlement plein de partis de droite et extrême droite, et qui pourrait expulser les gens les plus fragiles de notre société. Et j'arrête pas à répéter ça, parce que souvent c'est très difficile de parler avec des gens de partis de gauche, parce qu'ils prennent ça presque comme une insulte quand tu leur dis, écoute, ça tu fais pas bien, en fait, tu dois vraiment changer ta pensée là-dessus. Eh ben, je donne à tout le monde le conseil qui a le temps ou qui peut se le permettre d'y aller. Va une fois à Portugal, à Lisbonne. T'as un petit musée là. C'est le musée de la Révolution qui était contre Salazar, qui était aussi quelqu'un d'extrême droite. Et là, dans le musée, tu vois vraiment que c'était une lutte décolonial, tu vois vraiment que des systèmes fascistes, droite et extrême droite, il y a une stratégie derrière à investir dans la police. Et là, en fait, tu vois tout ce que les activistes essayent de faire comprendre aux partis de gauche, mais les partis de gauche veulent pas entendre. Et quand tu vas à ce musée, tu te rends compte, waouh, l'histoire se répète. Et finalement, elle se répète pourquoi? Parce que la gauche ne comprend pas qu'une grande partie du succès de droite et extrême droite est liée à différentes raisons que Selma et Juliette ont déjà dit. C'est parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités et qu'ils ne font pas les bonnes analyses du système.
Effectivement, c'est un constat qu'on peut partager et qu'on le voit aussi, notamment sur la question de la régularisation des sans-papiers, où justement le débat porte souvent sur les facteurs plutôt économiques et les avantages de la régularisation sur le plan économique, mais pas sur le plan humain. Et donc on voit quand même que même dans le champ du débat, la gauche vire un peu sur la droite et le discours est plutôt... le débat est dicté par la droite et comme l'a souligné Selma, on essaye de rentrer dans le débat selon les règles et on répond justement sur des plans économiques, etc. Alors qu'il faudrait peut-être pas faire procéder de cette manière-là. Est-ce que à ce sujet-là, est-ce qu'il y a une intervenante qui veut réagir sur cette question-là, le fait que le débat politique actuellement perd de sa valeur humaine? Parce qu'en fait, elle est dictée notamment par la droite.
Mais oui, par exemple, on n'entend aucun parti dire « mais en fait, il faudrait sortir de l'OTAN ». L'OTAN, c'est comme Frontex, c'est l'agence internationale qui n'a à répondre d'aucun crime. Avec des juristes, on s'est beaucoup renseigné et sur Frontex et sur l'OTAN. Il n'est pas possible... même si on documente des crimes qu'ils ont commis, il n'est pas possible de les assigner devant une juridiction. Et pourquoi est-ce que la Belgique est dans l'OTAN? copains parce que après, pendant la guerre froide, il y avait le pacte de Varsovie et puis il y a eu l'OTAN. Ils ont décidé de mettre le siège de l'OTAN chez nous. Il y a eu des discussions à l'époque et franchement, c'est pas très flatteur pour le peuple belge. Mais ils ont choisi de mettre l'OTAN en Belgique plutôt que en France ou en Italie parce que les Belges manifestaient moins. C'est parce que notre mouvement pour la paix était mou qu'ils se sont permis de mettre l'OTAN chez nous. Le fait d'avoir l'OTAN à Bruxelles, ça ne rapporte rien. Ils ne payent pas d'impôts. Ça fait de nous une cible potentielle s'il y a une guerre. Parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi la Russie voudrait attaquer la Belgique. Tout le monde se fout de la Belgique, sauf le fait qu'on a l'OTAN. Et pourtant, je n'entends aucun, à part quelques petit groupuscule pacifiste, mais personne n'est contre l'OTAN. Alors que ça coûte un pont, on parle même de doubler la partie du PIB qui va à la défense. Pourquoi avons-nous une défense puisque personne ne nous attaque? Et on n'entend pas qu'on veut sortir de l'OTAN, on veut être un peuple pacifiste, on n'a pas de raison d'entrer en guerre avec qui que ce soit, on ne l'entend pas. On n'entend pas non plus qu'on veut sortir de Frontex. Et donc, il y a toutes sortes de... même si on veut discuter du point de vue économique, tout ça nous coûte un pont. Tout cet argent pourrait être insufflé dans l'éducation, la santé et des choses beaucoup plus utiles à tout le monde. Et ça, ce serait un vrai discours de gauche. De dire, en fait, on veut de l'argent pour des services publics et on veut pas de l'argent pour faire de la guerre ni aux autres gens, ni aux migrants, ni tout ça ne sert à rien. Et pourtant, sur ces questions-là, comme ça a été dit, on laisse la droite et l'extrême droite dicter le discours dans lequel on veut juste réhumaniser un peu. OK, on expulse, mais on expulse gentiment. OK, des centres fermés, mais on n'y met pas d'enfants. Là, la gauche était là. Pas d'enfants dans les centres fermés. Mais oui, mais pas de centres fermés tout court, en fait. Et avoir un discours qui dit, en fait, peut-être qu'il faut juste ouvrir les frontières et arrêter avec cette forteresse Europe, eh bien, c'est un discours qui serait fort, qui serait peut-être pas audible pour tout le monde, hein, mais qui au moins aurait le mérite d'exister et de faire du contre-discours par rapport à tout ce qu'on entend de la part de l'extrême droite.
Je vais sauter sur ce que Selma a dit. En fait, pour bien comprendre pourquoi on exclut les gens de migrer en Europe, c'est très simple. Dans le système actuel, on a ce qu'on appelle en anglais des sacrifice zones, les zones sacrifiées en fait. Le calcul est fait, la façon de vie en Europe et d'autres pays d'Occident comme aux États-Unis et au Canada, etc., ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. C'est une stratégie de mettre les frontières de l'Europe, même plus en Europe, mais déjà dans les pays de Maghreb, parce qu'il ne vaut surtout pas qu'on se voit, on le voit. Parce que dès que tu le vois, tu as empathie avec quelqu'un et tu pourrais peut-être te résister, en fait. Alors, on va complètement, presque dans un film, Hunger Games, tu vois ça, avec les différentes entités. En fait, tous ces mondes sont déconnectés de l'un et l'autre. Et c'est exactement ça. On met vraiment notre oppression ailleurs parce que c'est des zones sacrifiées. Et moi, je rejoins tout à fait à Selma. C'est pas que je ne crois pas en frontières dans le sens que je crois pas dans les frontières qu'on est actuellement, qui pour moi, ce sont des frontières impérialistes. Par contre, je crois en frontières naturelles. Ça veut dire quoi? Ça peut être des lots, des montagnes ou quoi que ce soit, des terres fertiles, parce que je suis sincèrement convaincue que quand tu as des frontières qui viennent de la nature, les gens collaborent automatiquement ensemble. Et au lieu de vouloir toujours plus, les gens vont voir les différentes communautés sur la même région, vont voir comment on peut partager ensemble et vivre ensemble. Pour rebondir ce que Selma a dit, effectivement, en lieu de résoudre réellement les problèmes, on se cache actuellement dans les institutions comme le Frontex comme l'OTAN, qui gère maintenant à faire peur à nos gens, là, on va dire sur le sol européen, pour faire peur des choses, pour avoir peur qu'une guerre qui va se lancer, pour avoir cette idée qu'il n'y a pas assez, il y avoir une masse de gens qui vont arriver, vont tout nous prendre. À chaque fois, ils croient dans les institutions qui nous font croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, en fait, mais il y a assez. Et je pense que les modèles économiques de décroissance, d'ailleurs, ce n'est pas le bon terme, je trouve. Il faut surtout penser au-delà de la croissance. Quand on regarde ce modèle économique-là, là, on voit qu'il y a assez pour tout le monde. C'est juste qu'on doit vraiment redémocratiser nos systèmes et aussi redémocratiser notre société. Et ça veut dire que le Global North doit donner plus de voix aux gens qui viennent du Sud, en fait, du Global South. Parce que toute seule, sur notre île européenne, avec notre Fortress Europe que tu as mentionné, on ne va pas survivre, en fait. Ils nous croient qu'on va survivre parce qu'on a investi dans l'OTAN, parce qu'on a investi dans la militarisation, etc. Mais c'est le contraire, en fait. Ça va nous ramener à notre fin. Parce que quand tu regardes l'accord de gouvernement actuel, c'est vraiment tellement une pression sur les personnes, sur notre sécurité sociale, sur nos services publics. Quand tu vois les chômeurs et les chômeuses qui vont être exclus, qui vont se retrouver à CPAS, c'est ces réflexions-là qui sont le fin de notre société.
Merci beaucoup. Sur la question des illusions, sur le fait qu'il y a des personnes qui, justement, ont des illusions sur l'extrême droite. Tu peux peut-être réagir, Juliette, et dire quelles sont les manières de réhumaniser le débat public pour essayer de justement récupérer, je ne sais pas si on va dire électoral, mais en tout cas récupérer les personnes qui croient en tout cas à ce discours-là.
Du coup, effectivement, pour moi, c'est vraiment un point de départ qu'on doit avoir en tant que militant / travailleur dans l'associatif, je ne sais pas où vous travaillez tous, c'est vraiment de partir de « Ok, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se tournent vers l'extrême droite ?» Je pense qu'on a dit plein de raisons déjà, mais je pense que le plus important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un facteur qui fait que c'est pour ça qu'on se tourne vers l'extrême droite. S'il y a quelqu'un qui vous dit « Je comprends pourquoi les gens vont vers l'extrême droite », en fait, je dirais plutôt « Méfiez-vous », parce que en fait, quand on regarde un peu les études qui essayent de se pencher un peu sur ces électorats, on voit qu'en fait, il y a plein de facteurs. Il y a des facteurs qui sont plus à un niveau micro, où on va voir l'importance de l'entourage, l'importance de ton voisinage, l'importance de dans où t'es inséré, quoi. On va voir aussi qu'il y a des facteurs qui sont beaucoup plus macro, on va voir des facteurs historiques, des facteurs géographiques. Et donc, en fait, les électeurs d'extrême droite, ils se retrouvent dans un truc où leur trajectoire individuelle croise des grandes tendances. Et donc, en fait, on se retrouve face à ça où c'est tellement sur plein de niveaux que, ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. Et en fait, déjà, c'est vraiment quelque chose, on constate qu'on est très loin. Il y a un peu un mythe libéral de l'électeur éclairé qui vote parce qu'il sait, il connaît tous les programmes, il a lu tous les programmes, et il le fait vraiment en conscience à 100%. En fait, ça, c'est complètement un mythe. En fait, quand on regarde déjà la plupart des électorats, les raisons pour lesquelles on vote pour un parti, c'est vraiment des raisons à nouveau d'appartenance. En fait, souvent, on ne vote pas Front National seul, on vote Front National en famille, avec ses amis, et c'est pareil pour les autres partis. Écolo, pour l'anecdote, à l'inverse, c'est un parti où vous avez plutôt une base de gens qui savent très bien pourquoi ils votent et qui sont très éduqués et qui sont très en accord avec le programme. Mais dans la plupart des cas, c'est pas du tout comme ça, quoi. Et donc, l'électorat d'extrême droite, comme les autres électorats, c'est un électorat qui ne maîtrise pas le programme, n'est pas spécialement d'accord avec tout, va peut-être voter pour une partie, mais pas pour une autre, va apprécier une personnalité comme Marine Le Pen. Et donc ça, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, qu'on est loin d'une image de « Ah, c'est des gros cons, des gros beaufs », alors qu'en fait, non, c'est plein de choses qui se croisent. Néanmoins, je dis ça, je pense que c'est important de souligner que le racisme est clairement pas du tout à minimiser au sein de l'électorat d'extrême droite. En fait, quand on regarde les études, c'est vrai que c'est un électorat qui est particulièrement hostile à l'immigration, qui a peur de l'immigration, qui a plus de stéréotypes racistes que d'autres électorats. Mais je pense que là-dessus, c'est important aussi de se dire deux choses. C'est que déjà, c'est pas automatique. C'est pas parce que tu es raciste que tu vas voter Front National. Et à l'inverse, tu peux être raciste et t'abstenir ou voter pour des partis de gauche. Et je pense aussi, ce qui est important, c'est que dans tous les cas, je pense qu'on l'a dit assez, on baigne dans un contexte qui est raciste. Et je pense que comme personne de gauche, on doit pas voir ça comme une tare psychologique, quelque chose qui est inné de « Ah, celui-là, il est raciste, il est perdu ». En fait, je pense que c'est... Même toute la salle ici, hein, on peut se reposer la question de tout ce à quoi on a déjà pensé, tous les discours qu'on a déjà eus. Même, je pense, ceux qui sont nés dans des familles très progressistes de gauche. Il y a un moment ou un autre, on a dit de la merde, on a tous des biais racistes aussi. Et donc, je pense que c'est... Il faut pouvoir se dire qu'on peut aller agir là-dessus et pas juste c'est des racistes, point, on fait plus rien avec eux. Mais bon, je vous dis, ça, c'est ma casquette éducation permanente. Hein. Je dis pas que dans un collectif féministe où on est 15 ultra-radicales, faut aller chercher tous ces gens-là spécialement non plus, quoi. Donc, tout ça, ça nous offre des pistes comme militants où il va falloir se dire que ce sera pas en allant juste sur le terrain de la morale qu'on pourrait potentiellement récupérer ces personnes. Je pense que leur dire que c'est des fachos, leur dire le racisme c'est pas bien, ce sera pas suffisant. Je pense également que se dire qu'on va juste aller sur le terrain de la raison avec des chiffres, leur démontrer par A plus B que non, il y a pas un grand remplacement, que non, en fait, ils se trompent et que... En fait, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais de va falloir y aller aussi en mode... On a besoin de quelqu'un de MMA et je pense que eux, ils sont quand même pas sur un terrain avec des chiffres ou quoi. Donc, je pense que c'est important comme personne de gauche de rester dans ce cadre-là parce que nous, on s'est construit justement avec une pensée qui est basée sur des faits et des faits scientifiques, mais ce sera pas suffisant. Et donc, pour moi, le plus important, c'est vraiment de se dire qu'on doit aller sur le terrain. Évidemment, quand je dis aller sur le terrain, c'est pas individuellement se dire qu'on va aller rencontrer des gens qui votent extrême droite, c'est vraiment au niveau de nos structures. Où on doit, nous en francophonie, on a encore la chance de pas avoir une extrême droite organisée comme ça peut être le cas, mais je pense que justement on doit chérir le maillage associatif qu'on a, qu'on doit continuer les lieux de solidarité, tisser des liens, qu'on doit en fait faire des lieux politiques qui, où on pourrait penser qu'on ne va pas parler politique, mais en fait si, ça va venir. Et c'est pour ça que moi je pense vraiment que le projet d'éducation permanente, comme on peut l'avoir au CVFE, c'est quelque chose qui est primordial pour lutter contre l'extrême droite. Et nous, au CVFE, donc, on accueille toutes les femmes dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des femmes qui avaient des discours racistes. On en a même eu qui avaient eu des discours ouvertement. Elles disaient, ben, moi, je suis raciste. Et en fait, nous, notre perspective, c'était pas de l'exclure de nos ateliers. Parce que déjà, je pense qu'on la préfère près de nous que dans la nature à aller dire de la merde auprès de je sais pas qui va pas lui dire que c'est nul, quoi. Et c'était plutôt l'idée d'en fait réfléchir avec elle pourquoi, en fait, non, ça ne va pas apprendre à son rythme, pourquoi est-ce que tu dis ça? Et de vraiment aussi après passer une étape de, mais est-ce que l'extrême droite, elle a déjà fait une seule chose pour les femmes dans ta situation, pour les femmes qui sont au CPS? Et au final, en fait, je pense qu'avec nos ateliers, où justement des femmes de toute origine vont se rencontrer, on voit l'importance de créer une conscience, qu'elle soit de classe ou dans mon cas, ça va plutôt être une conscience féministe, mais pour vraiment montrer tout ce qu'on a en commun et que l'extrême droite ne répond aux besoins de personne, quoi.
Merci. Est-ce que Selma ou Denise, vous voulez, avant de passer aux questions du public, intervenir aussi sur la question de comment réhumaniser le débat politique et quelles sont les pistes de solutions pour justement réhumaniser ce débat?
En quelques mots, mais ce serait toute une journée de travail et de partage d'en parler. Il faut recréer du communautaire, de la sororité, des liens. Parce que ce système néolibéral a éclaté tout le monde et a donné une... Donc tout le monde se voit comme un individu tout seul qui a la responsabilité de réussir, puisque Elon Musk, il est quand même parti de rien et il est devenu multimilliardaire. Donc tout le monde peut y arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es un pauvre type. En gros, c'est cette idée-là qui est véhiculé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, partout. Et finalement, la personne qui a cette responsabilité, et c'est encore plus fort chez les Blancs et plus fort chez les hommes blancs, parce que le néocolonialisme n'arrête pas de leur dire qu'ils sont supérieurs. Donc, t'es supérieur. Et quand on veut réussir dans la vie, c'est comme ça. Et puis toi, tu n'y arrives pas. tu dois te sentir super mal, hein. Le gars, il doit pas aller bien. Puisque tout le discours, c'est un discours qui a de quoi rendre dingue. Et juste parce que c'est un discours qui est mensonger. Mais si la personne y croit, et donc aller vers les gens et leur dire, mais en fait, ça fonctionne pas. On peut pas réussir dans la vie tout seul. Il faut recréer des liens sociaux, familiaux, communautaires. Il faut être ensemble parce que en tant qu'être humain, on réussit que quand on est nombreux et solidaires. Ben, c'est ça qui peut faire que la personne va rebasculer dans des idées de gauche parce que la dame raciste qui se retrouve toute seule avec ses enfants, eh bien, elle aura beaucoup plus en commun avec une autre maman marocaine, pas raciste et battue aussi, et à qui elle pourra demander de garder ses gosses quand elle va chercher du travail. C'est de recréer de la communauté qui peut faire que les gens vont comprendre que c'est pas le racisme, c'est pas l'individualisme qui peut les aider dans la vie. Et la proposition d'extrême droite est individualiste. Et c'est justement le communautaire contre l'individualisme qui peut nous donner des perspectives.
La question était focalisée sur la politique, alors je vais aussi le focaliser sur la politique. Il faut rapprocher la politique chez des gens, chez des personnes. Comment tu fais ça? Moi, je prends beaucoup d'inspiration de Rojava chez les Kurdes en Syrie. Tu sais jamais faire un copy-paste d'un modèle, ça doit être clair. Et le modèle de Rojava n'est pas le seul. Tu as aussi le modèle de Zapatistas, tu as Buen Vivir, tu as plein de choses, tu as le plurivers en Inde. Partout au monde, tu as des exemples. Quand je fais la traduction au niveau politique, et maintenant je prends vraiment Bruxelles, on a la région de Bruxelles et on a les 19 communes, inspiré par le modèle de Rojava, je trouve qu'on devrait plutôt fonctionner, et ça rejoint ce que Selma a dit, sur les quartiers en fait. Et tout le monde sait que Bruxelles a 19 communes, mais elle a aussi 113 quartiers. Et les gens connaissent mieux leur quartier que juste plus large leur commune ou même au-dessus de là, la région bruxelloise en fait. Et qu'est-ce qui est important avec la commune, le quartier, c'est que tu connais pas seulement tes voisins, tu connais tu vois passer les enfants scolarisés, tu vois les gens qui viennent travailler dans ton quartier. Alors la cohésion sociale, elle est différente. Les Kurdes à Rojava, ils font aussi la politique mais à l'envers. Ça veut dire que c'est le niveau du quartier. Ils ont aussi plusieurs comités des quartiers. Et c'est le niveau de quartier qui prend des décisions. Et les niveaux politiques au-dessus, soit communal, soit régional, ce sont des niveaux, en fait, pour exécuter ce que les quartiers ont décidé, en fait. Et pour vous donner un exemple, il n'y a pas Rojava, c'est quand même une région de 2 millions de personnes, il n'y a pas de police. Ils ont créé un propre système au niveau de quartier, avec un système de roulement, que tout le monde doit prendre des responsabilités dans son quartier. Il n'y a pas de police et ça fonctionne. Ils ont, par exemple, des comités de paix. C'est quoi des comités de paix? C'est que chaque fois qu'il y a un conflit dans le quartier, ce groupe-là vient intervenir pour trouver une solution. Les caractéristiques de ces communautés, comités, c'est que ça doit toujours être au moins 50% des femmes. Pourquoi? Il y a eu des études que les femmes, ils sont plus aptes à trouver des solutions durables. Malheureusement, même si tu regardes aux politiques ou négociations des accords de paix, c'est toujours eux surtout qui manquent. Alors, je pense qu'il faut ramener la politique au niveau de quartier, justement pour que tu puisses travailler cette communauté. Parce que quand c'est une communauté qui est vraiment approchée de l'un et l'autre, ils vont se solidariser plus. Et quand les gens se connaissent, ils prennent toujours des décisions plus solidaires. On a parlé, par exemple, des questions de migration, parce que ça a l'air d'une question loin. Mais quand tu connais tes voisins, tout d'un coup, et tu te rends compte que ce sont des sans-papiers, et tu te rends compte qu'ils travaillent dans le resto là plus loin, à des conditions misérables, tu vas penser autrement sur la migration. Et c'est ça, en fait. Ils sont tellement éloignés, la politique ou les décisions politiques de la vie quotidienne des personnes, pourtant, leurs décisions ont un impact direct sur le quotidien des personnes, mais ils ont exclu, en fait, les gens à prendre des réelles décisions sur leur vie quotidienne. Alors, pour réhumaniser et redynamiser la politique, il faut le rendre plus proche des citoyennes.
Merci beaucoup pour ces interventions. On va passer aux questions du public. Je vais vous demander d'être concis, concise dans votre prise de parole. Évitez d'essayer de resituer votre question et aller directement d'emblée et poser votre question directement. Et de faire attention aussi à la parité dans la prise de parole. Donc, si on peut prioriser les personnes qui sont plutôt situées à la marche de prendre parole en première, ce serait topissime. Et en tout cas, si je vois qu'il y a un déséquilibre, je me permettrai de rééquilibrer aussi les questions à ce niveau-là. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à nos intervenantes ?
Bonjour. Je reviens sur l'objet de cette conférence, la dédiabolisation de l'extrême droite. Pour contexte, je suis membre de Grün, en fait, donc voilà, on connaît les problématiques de Flanspline. Quand on parle de questions si on doit diaboliser l'extrême droite, le média et malheureusement quelques élus de notre parti même empêchent cette question parce que ils ont d'avis que diaboliser l'extrême droite, c'est aussi diaboliser leurs votants. Mais est-ce que c'est vrai? Et sinon, comment faire face à cet argument?
On va essayer de concentrer plusieurs questions à la fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la salle?
Bonjour, moi j'avais une question du coup sur actuellement la gauche est en train de perdre la bataille culturelle en France, enfin partout en Europe. Est-ce que justement la solution ce serait pas de bousculer nous aussi la fenêtre d'Overton? Vous dites ouvrir complètement les frontières en Union européenne. Aujourd'hui, c'est un discours qui serait complètement inaudible dans les médias, mais est-ce que ce ne serait pas justement une manière de ramener la fenêtre d'Overton à gauche ?
Bonjour, merci à toutes les trois pour d'être venues parler de ça et aussi à vos différentes approches intersectionnelles. Juste une petite info peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien écologie, à savoir que écologie a toujours refusé d'aller à des débats quand il y a des jeunes de la NVA, parce que la NVA, c'est l'extrême droite, et aussi écologie est fermement opposée à l'OTAN. Donc, comme ça a été évoqué, je trouvais ça bien de leur dire que écologie est quand même bien à gauche sur ces questions-là. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que finalement, l'échec de la gauche, c'est pas d'avoir arrêté de proposer un nouvel idéal, en fait, et que on a trop concédé sur le capitalisme et sur tout ce que nous impose le néolibéralisme, et que, en fait, combattre les extrêmes droites, c'est proposer justement un nouvel imaginaire et un autre type de société. Peut-être là-dessus qu'on va pouvoir regagner un peu le combat.
Bonjour, j'ai une question en lien avec les réseaux sociaux. Donc, le rôle peut-être des politiques dans l'accessibilité à l'information. Parce que si l'information est plus accessible aux minorités, via les réseaux sociaux par exemple, et bien peut-être aussi qu'ils seront plus informés sur la manière de voter ou autre. Donc j'ai une question de comment être plus proche des personnes via les réseaux sociaux.
Bon, après, c'est toujours un peu compliqué de répondre à des questions comme ça, parce que je trouve que c'est le genre de truc, c'est hyper chouette à discuter en groupe ou à deux-deux, et qu'en fait, ça mérite plein de aller-retour, et qu'en plus, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas spécialement toujours plus légitime que la salle pour répondre à ces questions, parce que là, c'est des questions stratégiques. En tout cas, ce que tu poses comme question sur diaboliser les idées d'extrême droite ou leur électorat, en fait, c'est vrai que la réponse, elle est compliquée, quoi, parce qu'on en revient à la même chose de « t'es dans ce contexte où je ne suis pas sûre que sur les médias flamands, tu auras la possibilité d'avoir un regard nuancé et de dire, comme nous, on a essayé de le faire avec une approche compréhensive des électeurs, mais quand même de se dire que, et en même temps de, mais je pense, moi, ça me semble primordial de distinguer les deux, mais je sais pas comment tu fais ça, parce que c'est vrai que dire juste c'est démanipulé, ça me semblerait un peu aussi compliqué. Donc c'est vrai que je réponds pour dire que j'ai pas vraiment de réponse, tant le cadre est pas à la réflexion, quoi. Je pense que ce qu'on a vu ces derniers temps avec des choses comme, des propos d'Elon Musk ou quoi, on n'est pas dans une recherche de rigueur et de scientificité pour comprendre comment, Du coup, courage aux gens qui sont en Flandre, quoi. Et sinon, sur les autres réflexions qui ont été données, oui, moi, je pense que c'est hyper important, en tout cas, de donner de l'espoir, proposer des nouvelles choses, proposer des alternatives. Et je pense que ça se sentait un peu dans nos discours, que ça, c'est ça dont on a besoin. Et l'extrême droite, elle se construit sur des vides politiques, elle se construit quand il y a du désespoir. Et donc, ça me semble primordial de proposer un projet solide qui donne envie de aux gens de se mobiliser et de pas justement tomber dans ce truc de chacun dans son coin et j'essaie juste de m'en sortir comme je peux, quoi. Et du coup, je trouve que pour les réseaux sociaux, effectivement, dans les milieux de gauche, pendant longtemps, on les a un peu mis de côté. C'était pas vraiment être un vrai militant si on était sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, maintenant, je me dis qu'on était vraiment dans l'erreur. Et quand je vois effectivement la place que prend l'extrême droite là-dessus, bon, là, maintenant, on peut plus citer Dany Eras parce qu'il vient d'avoir les événements qu'il y avait eu. Mais sinon, de base, je trouvais que des initiatives comme les leurs et plein d'autres Twitchers, en fait, je les cite eux, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Troublant Acide, il y a Pas du Ring, enfin, bref, il y a plein de gens qui se saisissent de ça et je pense qu'il faut qu'on y aille plus, effectivement, pour informer, mais même faire rigoler. Je pense que c'était ça, la force de Dany Eras, c'est de, ok, t'as un peu des contrats, tu joues à tes jeux vidéo et en même temps, t'entends des gens qui parfois disent des trucs pas trop cons, quoi. Donc voilà, s'il y a des geeks dans la salle, je pense qu'il faut qu'on investisse. C'est un terrain aussi, quoi. Je ferai pas une séparation entre la vie réelle et Internet. Et je pense qu'Internet, c'est la vie réelle et qu'il faut qu'on y aille comme partout, quoi.
Moi, j'ai plusieurs éléments de réflexion que je voudrais partager. D'abord, je voudrais commencer par un exemple pour répondre sur la question du cordon sanitaire. Avec les gens de Headquarter of the Movement, on avait fait une pétition au Parlement. Donc il faut réunir 40 000 signatures, etc., pour demander une régularisation pour les sans-papiers. C'était pendant que des sans-papiers occupaient l'église du Béguinage. Et en fait, quand on réunit suffisamment de signatures, le Parlement est obligé de discuter de la proposition de loi, qui est une proposition de loi citoyenne. Ce que on avait obtenu, c'était que devant le palais de justice, il y ait un écran et une retransmission en direct des débats du Parlement sur la question des sans-papiers. On avait demandé ça parce que pour rentrer, on peut assister au débat parlementaire, mais pour rentrer au Parlement, il faut une carte d'identité. Or, les principaux intéressés, par définition, n'en avaient pas. Et il y a eu toute une discussion, mais les discussions dont seule la gauche est capable, hein, de coupage de cheveux en quatre, de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait au moment où le Vlaams Belang prendra la parole? Puisqu'ils sont au Parlement, ils prendront la parole sur la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les transmet? Est-ce qu'on les transmet pas? Est-ce que cordon sanitaire? Est-ce que pas? Est-ce que c'est respectueux pour leurs électeurs? Est-ce que c'est pas respectueux? Blablabla. Et finalement, il y a eu du mal à se mettre d'accord. Je pense que ce qui avait été décidé, c'est qu'on coupait le son au moment où Dries Van Langenhove va aller baver sa haine, et dans la manif qu'on organisait nous, hein, c'était notre manif, avec notre écran. Au moment où Dries Van Langenhove prend la parole et commence, personne ne lui coupe la parole. Moi, perso, ça m'a énervée, donc j'ai pris un micro et j'ai commencé à crier très fort, très très fort, de manière à couvrir, et j'ai demandé à tout le monde de crier, de manière à le couvrir pour qu'on ne l'entende pas. Ils ont déjà 80%, voire plus, d'audience. Pourquoi est-ce que dans les petites zones, on n'arrive pas à avoir des zones free de l'extrême droite? Pourquoi est-ce que entre nous, on n'arrive pas à leur dire, mais non, mais vos gueules, en fait. Et vos gueules, et vos électeurs aussi, vos gueules. Et excusez-moi, hein, je dis peut-être ça parce que je m'appelle Ben Khalifa et que je suis une arabe, hein, mais franchement, vous entendre baver vos haines sur nous, à longueur de temps, eh ben non, vos gueules. Et s'il y a de notre côté des gens qui sont censés être avec nous, qui disent oui, mais ils ont quand même le droit de s'exprimer, ben oui, mais qu'ils aillent s'exprimer ailleurs, parce que s'ils s'expriment devant moi, je vais lui péter ses dents. Et je sais que c'est difficile à entendre, et on m'a fait des reproches parce que j'ai dit un truc du genre que c'était un connard, et on m'a dit qu'en tant qu'avocate, je n'avais pas à m'exprimer comme ça. Eh bien, en tant qu'avocate, je trouve que c'est un connard. Avec le ton que prennent les avocats. Et là où je suis un peu moins d'accord, c'est sur la question des réseaux sociaux. à qui appartient l'outil de production. Marxisme de base. Ça, Elon Musk appartient X, c'est à Zuckerberg qui appartient Facebook et Insta, je pense. Enfin, c'est à eux qu'appartiennent l'outil. Et ils ont des moyens de faire que l'outil soit beaucoup plus utile et productif pour leur discussion que pour les nôtres. Alors oui, il faut participer, mais ne pas croire qu'on sera sur un pied d'égalité avec eux dans leur propre outil. Et là où je vais passer la parole à la camarade qui est à côté de moi, c'est que moi, j'ai toujours été en admiration totale pour le mouvement kurde, parce que eux, ils ont leur propre télé, ils ont leur propre radio, ils ont leur propre média. Pourquoi la gauche, pourquoi la FGTB, pourquoi n'est-on pas capable d'avoir nos propres médias? Au lieu de pleurer sur les, pas parce que les médias qui appartiennent à Bolloré tiennent le discours de Bolloré, essayons d'avoir nos propres médias. Les Kurdes, ils ont pas d'État, pas de soutien, pas de soutien international. Ils ont juste leur population qui cotise, parce qu'ils cotisent, et ils ont leur propre télé. On veut notre télé.
La petite anecdote peut-être, Selma, on se connaît depuis quelques années, mais c'est que tu ne sais pas que la première télévision kurde est montée par mon père. Alors quand on parle d'opération Spoutnik, c'est mon père. Je veux bien réagir, il y a plein de choses qui étaient dites, et je veux juste rejoindre Selma sur un truc important, la diabolisation de l'extrême droite. Oui, on peut le faire, je suis tout à fait d'accord. Et sur les électorats qui seront diabolisés aussi, mais la gauche l'a déjà fait avant, il y a un livre très intéressant de Owen Jones qui s'appelle « Chaffs ». Chaffs, soit la diabolisation de la classe ouvrière, en fait. Et la gauche a tellement pissé sur la classe ouvrière, désolée de m'exprimer comme ça, ils l'ont déjà fait avec leur propre électorat. Alors, il faut m'expliquer pourquoi ils s'inquiètent maintenant pour les électorats des autres. Ce qui concerne les réseaux sociaux, avant, j'étais souvent dessus, maintenant un peu moins. Je le fais encore pour mon boulot, pour la FGTB, parce que c'est quand même important de montrer les grèves, mais effectivement, ils ont montré leur alliance très claire vis-à-vis de Trump. Et maintenant, chaque mouvement que tu mets dessus, c'est vraiment dans leur poche. Et je pense que un premier pas que tu sais faire comme citoyenne, même si tu penses que ton impact est très minime, c'est choisir où tu mets ton argent. C'est une des choses que tu as encore un petit peu contrôle dessus. Et ne le mettez pas. Regarde, on a plusieurs dessins là derrière nous. Ne mettez pas dans des entreprises ou dans des individus qui contribuent à des figures pareilles, en fait. Et effectivement, maintenant, être sur les réseaux sociaux, ça pose réellement un problème et la gauche doit vraiment faire une réflexion là-dessus. Après, il y avait la question. Je sais que quand tu l'as posée, je trouve super intéressant, mais j'ai oublié la question. Oui, je disais toujours, parce que je suis un ancien membre Groen, je disais toujours, il faut avoir une figure charismatique qui dise on va y aller à la Lune. Même si réellement on va pas y aller à la Lune, mais donner de l'espoir aux gens, en fait. Et à l'époque, quand je le disais, tout le monde me prenait pour une folle en disant, mais non, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Non, il faut donner de l'espoir aux gens, en fait. De donner de l'espoir pour dire qu'il y a une alternative. Et surtout, que cette alternative est envisageable, en fait. Et j'ai lu une phrase, et elle revient souvent, qui disait « Le capitalisme a convaincu que c'est plus facile de s'imaginer le fin du monde que s'imaginer un autre monde. » Et je pense que c'est exactement ça. On est tous tombés dans le trou, hein, qu'on pense que c'est beaucoup plus facile de s'enterrer, nous tous, que de se dire « Ben non, on va faire autre chose. » Et je pense que c'est ça, en fait. Il faut vraiment partir de là et dire, oui, il y a une alternative possible. Et ce qui est clair, c'est que ce ne sera pas possible dans ce système actuel. il faut alors se mettre ensemble et pas qu'au niveau politique. Alors, si je peux donner un conseil aux jeunes, en fait, c'est effectivement d'être ancré dans votre quartier, dans votre communauté, et de faire le lien entre les mouvements de base, parce qu'il y en a pas mal, et la politique, en fait. Parce que même la société civile, c'est des ONG, des organisations, des ASBL, ils sont déjà semi-institutionnalisés. Mais va vraiment, en néerlandais, on dit, à la FGTB, on dit, va mettre ton oreille au trottoir, en fait. Hein, quand tu hors de stoop, là, effectivement, c'est ça. Va mettre ton oreille sur le trottoir et va écouter les gens et vous allez voir que la plupart des gens savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin d'être bien dans leur vie. C'est juste qu'on leur a enlevé de rêver que c'est envisageable et vous pouvez jouer un rôle actif là-dedans.
Je peux me permettre de juste rebondir sur une des questions qui avait été faite sur l'ouverture de la fenêtre d'Overton à gauche. En fait, à droite, ils n'arrêtent pas. Trump, il propose de faire une Riviera à Gaza. C'est absurde. Ils ouvrent des possibilités tellement odieuses que n'importe quelle proposition qui se fera en deçà, mais qui sera quand même dégueulasse, passera pour mieux que le pire. Et nous, on doit avoir le courage de faire la même chose. On veut ouvrir les frontières, parce qu'on trouve que les frontières, ça sert à rien. Ça veut pas dire qu'on va l'obtenir, mais c'est une proposition. On veut en finir avec l'inégalité Nord-Sud. On veut sortir de l'OTAN. Vraiment, on veut plus d'argent. On veut revenir au troc. C'est juste ouvrir des possibilités qu'un autre monde est possible. Mais pour ça, il faut vraiment réfléchir out of the box. Et c'est pas facile à faire, mais ça donne plein d'espoir. C'est beaucoup plus épanouissant que d'essayer de changer une virgule dans une proposition de loi raciste. C'est beaucoup plus chouette à faire, réfléchir à defund the police. Mais on pourrait pas vivre sans police. Ben, si à Rojava, ils y arrivent, donc pourquoi pas? Et donc, avoir vraiment des réflexions comme ça, beaucoup plus sociétales et beaucoup moins politiques-politiciennes, c'est quand même beaucoup plus enthousiasmant comme manière de faire de la politique.
Si je peux ajouter juste très court, parce que voilà, tu as touché le mot Gaza et je sais qu'il y a eu toute une conférence sur la Palestine, mais je trouve que la Palestine, ce qui se passe, la génocide à Gaza a sa place partout, dans toutes les conférences, aussi ici. Et vu de l'angle de l'extrême droite, c'est très important. La génocide à Gaza, théoriquement, c'est pas la plus grosse génocide qu'il y a eu historiquement, mais c'est, on va dire, la génocide le plus visible, en fait. On reçoit en live les infos. Et pour moi, la génocide à Gaza, c'est vraiment le test avec l'humanité. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va rester apathique? Ou est-ce qu'on va montrer qu'il y a de l'humanité, il y a de l'espoir, qui dit stop à cette atrocité, en fait? Et je dis ça, je viens des Kurdes moi-même, il y a aussi des bombardements, mais si on résout pas, si on met pas fin au génocide à Gaza, il y aura aussi des génocides sur d'autres peuples, en fait. Pourquoi? Israël, c'est vraiment le laboratoire de militarisation. C'est là où tous les pays OTAN, ils vont chercher leur matériel militaire. Avec toutes les entreprises qui soutiennent Trump, mais aussi toutes les entreprises qui soutiennent NVA, avec le New Industrial Deal au niveau européen, c'est ça en fait ce qui se passe. On fait des tests sur les Gazaouis, et ce qu'on fait après, c'est vendre ces matériels de guerre testés sur les gens de Gaza à des pays de l'OTAN pour après utiliser sur d'autres personnes. Et avec l'extrême droite qui est en place, avec Frontex qui est en place, il viendra chercher aussi toi et moi. Alors on a la responsabilité de mettre fin à la génocide de Gaza avec tous nos moyens, parce que là c'est vraiment en ouvert total la capacité de destruction de droite et extrême droite.
Je vous remercie de poser sur la table la question du néolibéralisme qui stimule vraiment notre individualisme Et il y a quelque chose qui dit, quelque chose qu'on dit assez souvent et qui est assez criant, c'est que le néolibéralisme, c'est une branche du capitalisme. Et le capitalisme, lorsqu'il est en crise, c'est le fascisme. Et lorsque nous arrivons à un moment donné où nous arrivons dans une crise économique, on arrive à un moment donné où les gens sont tellement individualistes que les discours de solidarité deviennent inaudibles. Et il faudra toujours trouver un bouc émissaire pour penser, régler les problèmes autour des problèmes économiques et des manquements économiques que l'on retrouve. Donc il faudra toujours trouver un bouc émissaire comme il a été dans les années 40, c'était les Juifs. Aujourd'hui, bah, on voit que le problème de la société, bah, c'est le wokisme, c'est les frères musulmans, les islamistes, les marocains, etc. Je vois aujourd'hui que la droite et l'extrême droite ne se gênent plus pour avoir des discours qui choquent. Donc moi, je me pose la question, est-ce que la gauche, aujourd'hui, à son tour, doit arrêter d'avoir peur de choquer ?
Je me demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à dire, dès qu'il y a un discours d'extrême droite, que c'est un discours d'extrême droite ? Tout à l'heure, on disait, ben, en Belgique francophone, on a de la chance, on n'a pas de parti d'extrême droite structuré, mais en fait, on a l'EMR, et on a Georges-Louis Boucher, qui a clairement des discours et des positionnements d'extrême droite, et je trouve, moi, qu'on ne dit pas assez, attention, ça, c'est de l'extrême droite. Et on laisse aussi passer des choses, en fait. La fenêtre d'Overton dont on parlait tout à l'heure, en fait, du côté francophone du pays, c'est devenu, c'est la véranda d'Overton. C'est tous les jours qu'elle s'élargit et que, en fait, même ses discours sur la RTBF, sa vision de la culture, même quand il n'est pas raciste, il a aussi des discours sur la culture qui sont des discours d'extrême droite et je trouve qu'on ne dit pas assez, comme Selma Ben Khalifa lui disait tout à l'heure, on ne lui dit pas assez « ta gueule, tu es d'extrême droite » et ce n'est pas ça qu'on veut entendre.
Après, moi, j'avoue, je suis quelqu'un, ce genre de questions, je crois que c'est mon côté un peu chargé de recherche, je crois que j'ai besoin d'aller voir d'abord des études sur okay, comment les gens ressentent le truc, qu'est-ce qui va fonctionner le plus, et j'avoue, moi, je suis un peu parfois mal à l'aise de réfléchir à des stratégies dans le vide, parce que je suis là, genre, en fait, si je n'ai pas une étude qui me dit comment les gens réagissent, mais c'est peut-être moi qui suis un peu trop... Et c'est vrai que moi, sur la question du MR, en fait, oui, c'est clair que Georges-Louis Boucher, je pense qu'il faut le dire à chaque fois qu'il dit un truc de merde. Je trouve que, en vrai, il y a des gens qui le font quand même. Après, c'est peut-être parce que je suis dans ma bulle d'algorithme et tout. Après, moi, c'est vrai que je suis d'avis que le MR n'est pas un parti d'extrême droite. Et je pense, en fait, à l'inverse, on doit aussi diaboliser le MR qui est un parti de droite conservatrice. Et qu'en fait, c'est moi, pour moi, Georges-Louis Boucher, il a le visage dégueulasse de la droite conservatrice qui est aussi raciste, qui est aussi sexiste, qui déteste les pauvres. Et du coup, moi, je me pose la question de est-ce qu'il faut aller mettre l'étiquette d'extrême droite sur le MR ou Georges-Louis Boucher alors qu'il y a un autre spectre qui ne nous plaît pas en tant que personne de gauche, quoi. Et je pense que Georges-Louis Boucher, quand je vois ce que Trump, là, il est en train de se passer aux États-Unis, je suis... Enfin, peut-être, voilà, on sera peut-être pas d'accord toutes et tous là-dessus, mais c'est vrai que je suis là... L'extrême droite, c'est quand même trois steps plus loin que ce que Georges-Louis Boucher est en train de dire, quoi. Et je pense que j'ai pas envie de participer non plus à banaliser ce terme d'extrême droite en le plaquant un peu trop souvent, quoi. Mais à discuter, genre, j'ai vraiment pas envie de me faire tracher, quoi. Mais genre, à discuter, c'est moi-même des trucs sur lesquels je me questionne, quoi.
Tu as dit un truc très important que moi j'ai dit souvent et je vais te le dire aussi à toi. À aucun moment, l'élection de Trump peut devenir une excuse que ça va quand même mieux en Europe. Si sa pensée est fasciste. Mais à vivre dans un système où administrativement le fascisme est complètement en place, ça c'est autre chose. Mais avec les décisions gouvernementales qui sont prises, on va y arriver en fait, je pense.
Après, moi, je pense que c'est important de souligner vraiment que le MR pourrait devenir un parti d'extrême droite. Ça, je suis d'accord. Et qu'ils font des alliances qu'il faut pas. Que je pense qu'il faut rappeler très souvent aux quelques derniers libéraux qu'il y a là-dedans que, en fait, faut faire quelque chose contre votre parti. Mais alors, pour moi, tu places où alors la droite conservatrice? C'est quoi alors la droite conservatrice si ce n'est pas ça? Et moi, je suis d'accord. Je la déteste, la droite conservatrice. Je ne l'aime pas. Je veux lutter contre. Mais ce n'est pas de l'extrême droite.
Georges-Louis Boucher, c'est un raciste et pour moi aussi de l'extrême droite. Et même si tu parles de quelques têtes qui ne sont pas de l'extrême droite de MR, les gens ont voté pour MR à cause de Georges-Louis Boucher. Point barre. Et tu peux pas
Moi, je voudrais mettre,
peut-être laisser répondre aussi à Selma et après on pourra peut-être revenir là-dessus aux limites.
Mais peut-être juste quand même là-dessus sur les gens ont voté MR pour Georges-Louis Boucher. Je suis pas sûre qu'on ait déjà les études des politologues qui te disent pourquoi est-ce qu'on a voté pour le MR. Et je suis désolée, pour moi, tu as besoin d'avoir un minimum ces retours-là plutôt que juste suivre nos instincts de gauche, quoi.
Moi, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau académique qui est très intéressant. C'est que nous, on essaye d'être super scientifique. Ce que Juliette explique, elle a besoin de rapports qui expliquent que... Mais face à nous, on nous traite d'islamo-gauchistes parce qu'on dit que la petite madame marocaine ne doit pas être mise dehors de son logement social. Islamo-gauchiste, c'est clair que ça n'existe pas. Hein. C'est pas un truc que si on cherche de la littérature scientifique académique sur l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. On nous traite de wokistes parce que un camarade a une boucle d'oreille. De l'autre côté, ils sont à MMA. Eux, ils vont nous traiter de staliniens d'extrême gauche parce que on a dit qu'éventuellement, peut-être, il fallait pas totalement détricoter la sécurité sociale. Et nous, de notre côté, on est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment les qualifier d'extrême droite ou de droite extrême ou éventuellement de conservateurs de droite? Dans le discours politique, médiatique, je pense qu'on n'en a rien à foutre. Il faut leur dire, vous êtes d'extrême droite, on vous déteste. Point. Et après, dans le discours académique, on peut essayer d'être un tout petit peu plus nuancé et réfléchir plus. Mais sinon, on est sur la scène politique. On retient nos coups parce qu'on a peur de se tromper. De l'autre côté, ils ne le font pas du tout.
Mais je pense que justement, c'est un bel exemple un peu de la division de la gauche et du fait qu'on n'arrive pas. Et là, on le prouve ce soir aussi, justement. Je crois que c'est un peu notre faiblesse, c'est qu'on se divise justement sur ces questions. Et malgré une conférence où on a pu aborder toutes ces questions, même en conclusion, on n'arrive pas à avoir une stratégie commune. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça révèle quelque chose de la gauche de manière générale. Je pense qu'on ne va pas réussir à concilier ce soir. Mais je propose de voir s'il n'y a pas d'autres questions, parce que le but, ce n'est pas non plus d'avoir justement ces discussions-là qu'on pourrait avoir en dehors de ce débat, et d'avoir aussi, voir s'il n'y a pas d'autres perspectives, parce que si on a une conférence qui finit sur la division de la gauche, ce serait quand même un peu dommage.
Mais alors, je veux dire quelque chose de positif. Oui. Je pense que c'est toujours bien de rassembler les différentes voix, et ça doit juste se renforcer et pas se diviser, je pense. C'est ça le plus important. Alors, non, justement, avoir plusieurs visions, pour moi, ça reste quand même de la démocratie. C'est très important. Mais dans la rue, on peut avoir un punching ball. Je suis d'accord avec Selma. Et après, on peut quand même avoir encore des discussions entre nous plus intellectuelles.
Ça peut être genre...
Mais juste quand même en une seconde, parce que c'est pas juste sur la question académique, je pense que c'est aussi une question stratégique, et c'est pas parce que, justement, tu l'as dit toi-même, avec les réseaux, je pense que si l'extrême droite, elle peut nous traiter d'islamo-gauchistes, c'est parce que elle a le vent en poupe, elle peut le faire, on n'a pas la même capacité qu'elle, et je pense qu'on voit bien que les réactions sont pas les mêmes, et je pense que c'est plus une question stratégique qu'une question de académique ou pas. Mais en tout cas, je veux bien arriver à la conclusion d'en avoir des stratégies différentes, sur qu'est-ce qu'on pense qui va fonctionner pour lutter contre l'extrême droite, quoi.
Moi, c'était juste pour rebondir sur académique et médiatique. En fait, je suis académique aussi, j'ai aussi besoin de chiffres, je lis 10 000 articles avant de me positionner. Mais ce que j'ai peur, c'est que le temps, en fait, de l'académique par rapport au médiatique. C'est-à-dire que médiatique, c'est hyper rapide, ils sont là, ils sont partout, à dire de la merde, on va pas se mentir. Et là, l'académique, ben, on a quand même besoin de ces chiffres, on a besoin d'analyser, et parfois on réagit pas assez vite du coup. Et c'est ça un peu qui m'inquiète. Et c'est comme ça que des discours problématiques sont véhiculés dans la société en fait. Et du coup, comment lutter pour avoir quand même du coup un contenu qualitatif si on doit attendre hyper longtemps?
Mais est-ce que je peux répondre là directement là-dessus? Ça va peut-être choquer en fait. Comme femme racisée, j'ai toujours dit, j'en ai rien à kicker des chiffres, en fait. Parce que quand on parle de la violence policière, je sais plein de gens qui vont même pas faire les démarches pour ce que ça rend dans les statistiques. Même pour les viols, même pour plein de choses, en fait. Surtout quand tu parles de mon intersectionnalité. Et il y a une partie aussi de l'extrême droite, en fait, quand on parle de Georges-Louis Boucher, moi, comme femme racisée, venait d'une famille de migration, ce, quand je lui entends, pour moi, il n'y a pas de différence entre Tom Van Grieken et dans mon vécu, c'est comme ça. Et je pense qu'en anglais dit « multiple things can be true at the same time ». Plusieurs choses peuvent coexister au même moment, en fait. Alors, s'il te plaît, comme personne racisée, je peux te confirmer que pas tout est dans les chiffres.
Moi, je voulais juste parler par rapport au fait d'apposer le terme extrême droite ou pas quand on voit quelque chose ou qu'on entend une parole autour de nous. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup du contexte et que du coup, pour donner un exemple, moi, sur les réseaux sociaux, je vais partager beaucoup de choses d'extrême gauche, etc., qui sont tout de suite formulées en fait dans des termes que des personnes militantes vont comprendre. Mais évidemment que quand je m'adresse à des gens plus âgés ou qui sont pas du tout dans la bulle militante ou de gauche, je pense que c'est pas forcément productif de dire tout de suite ça c'est d'extrême droite. Il peut y avoir des moments où c'est le temps de la pédagogie et de prendre les gens plus en douceur, mais au final j'ai l'impression que c'est un calcul par rapport à notre énergie. Avec qui en fait est-ce qu'on a le temps d'éduquer pour leur faire comprendre que c'est de droite ou d'extrême droite une parole, et avec qui ça vaut peut-être pas le coup. Enfin, j'ai l'impression que c'était beaucoup ça le débat. Pour ne pas, est-ce qu'on va crisper les gens de droite ou pas? Enfin, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus sur quand est-ce que ça vaut le coup ou pas, en fait.
Peut-être au risque de remettre un petit peu de sel sur la plaie. je voulais continuer avec la question, désolée, sur la stratégie politique. Et moi, je voulais entendre votre avis sur la politique institutionnelle. Vous avez vraiment fait un portrait assez critique des partis politiques et de l'institutionnalisation de ces partis, même de certaines parties des ONG et du mouvement de la société civile. Vous avez invité à s'organiser au niveau local. Est-ce que ça vaut encore le coup de mettre de l'énergie dans les structures institutionnelles politiques de gauche?
Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur différents niveaux en même temps. Dans ma vie professionnelle et militante, dès que je peux prendre la parole à une manifestation, je suis no border. Je suis pour l'ouverture des frontières. Vous pensez bien que quand je dois aller plaider pour mon réfugié devant le Conseil du contentieux des étrangers, je ne prends pas le juge de front en lui disant « Fuck le conseil, no border !» Parce que je veux obtenir une décision positive pour mon client. Et donc, j'utilise toute la rhétorique qu'il faut et l'article Intel qui dit ça. Et donc, on peut faire les deux. Ce n'est pas interdit. Mais choqué à certains moments, puisque eux sont dans ce discours, je trouve qu'il faut le faire. Ouvrir la fenêtre Overton, dire des choses choquantes, voire dire des choses qui ne sont pas totalement exactes. Hein. L'espèce d'obsession de la gauche pour l'exactitude. Si tu dis 99% de vous sont des connards, c'est sans doute pas totalement exact. Et tu n'as aucun chiffre pour le démontrer, mais tu peux le dire. Et donc, on peut faire les deux. On doit faire les deux. De la même manière, il faut créer un autre monde possible. Et je pense aussi qu'il faut le faire au niveau des quartiers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut totalement désinvestir l'institutionnel. Il faut être dans ces lieux-là, même si ça ne sert à rien, uniquement pour porter un contre-discours, pour ne pas leur laisser toute la place. Parce que si on désinvestit totalement la politique institutionnelle, eh bien, il n'y a plus qu'eux qui y sont, et il faut que le contre-discours y soit. Alors, évidemment, pour ceux qui se sacrifieront pour y aller, c'est pas facile, parce que aller au Parlement dans le contexte dans lequel on est actuellement, ça doit pas être évident. Mais c'est important de porter un contre-discours partout où on peut porter le contre-discours.
Mais là-dessus aussi, c'est vrai que je suis assez d'accord. J'aime bien l'idée de plusieurs niveaux. Moi, c'est vrai que de manière évidente, effectivement, j'ai choisi le syndicat, le CVFE, qui sont des niveaux. Plus où on veut, ben voilà, beaucoup de monde, on va travailler avec tout le monde. Mais c'est vrai que je me le dis très souvent que heureusement qu'il y a des collectifs plus radicaux que le syndicat, parce que c'est vrai que c'est pas le syndicat qui va dire no borders, quoi. Et donc je trouve que en fait c'est ça, ça a à voir aussi dans quoi t'as envie un peu de t'investir, qu'est-ce qui toi va aussi. Et moi c'est vrai que j'ai la question de ok, qu'est-ce qui va ramener le plus de monde, parce que moi j'ai l'impression que j'ai cette question-là pour arriver de ok, qu'est-ce qui va vraiment changer la société. Et moi ça me semble être le truc d'être le plus nombreux possible, Mais c'est vrai que parfois, effectivement, mon discours, j'en suis moins d'accord parce que, et c'est ça que je voulais dire avec les études, c'est que j'attends de me dire, OK, qu'est-ce qui irait bien sur la population? Et peut-être que je vais trop avec le vent. Mais je pense que c'est toutes des approches qui peuvent être complémentaires et je pense que c'est bien de s'allier à ces, ouais.
Ah non, c'était pour compléter la question de madame. Parce que je travaille à la FGTB et c'est un des acteurs dans la société civile le plus grand, très institutionnalisé entre temps. Et oui, j'y travaille et je trouve leur existence super important. La question n'est pas d'être contre ces ONG ou d'autres ASBL et tout ça. C'est juste à l'intérieur d'eux, mettre le pendule à l'heure et pour se dire, vous êtes à la service de qui, en fait? Et c'est ça le plus important. Et c'est la voix, par exemple, que moi, j'essaie de porter à la FGTB. Moi, j'ai encore de la chance que c'est un syndicat qui se prononce ouvertement anti-Frontex. C'est quand même pour moi très important. Mais le plus important, c'est, comme Selma a dit, lever la voix. Où tu es, n'importe où, sur la situation contre l'extrême droite. Et pour répondre à la question... C'est cette personne-là qui l'a posée par rapport à est-ce que stratégiquement c'est bien de le dire. Je pense que oui, il faut dire aux gens quand ils disent une chose raciste ou quand ils sont racistes, mais il faut aussi avoir un suivi derrière. Je connais beaucoup d'activistes qui disent « Oh, moi, je mets pas mon ton là-dedans ». Justement parce que je travaille à la FGTB, je vois très bien que de « one-to-one », un à un, ça fonctionne vraiment bien. Parce que j'ai quand même remarqué, si tu veux que les gens changent de position, il faut qu'ils soient dans un safe space pour vraiment aller en profondeur. Moi, en tout cas, j'essaie de jouer ma rôle là-dedans au sein des syndicats.
Moi, je voulais un peu rebondir sur la question qui a été posée. La question de la qualification de l'extrême droite, je trouvais que ça était une question assez intéressante et pour info, lors du débat de hier sur LN24, avant-hier il me semble, il y a eu la question de justement notre affiche qui a été discutée avec l'usage du terme extrême droite et ce qu'on peut qualifier Bart De Wever d'extrême droite. Donc vous pouvez revoir l'émission, c'est pas très intéressant et c'est vraiment ce que la droite a de mieux à proposer justement en termes de débat sur le wokisme, etc. Mais du coup je trouve que c'est quand même une question intéressante de savoir est-ce que en fait qui est réfléchir à ces questions. Et j'entends, en tout cas durant cette conférence, qu'il y a un besoin d'à la fois se baser sur des études, sur des chiffres, sur la science politique pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est qualifiable d'extrême droite ou pas. Et j'entends aussi le besoin associatif, militant, engagé, et même de personnes situées à l'intersection de plusieurs dominations, de qualifier d'extrême droite et de qualifier les propos qui sont dits. Est-ce que du coup, il n'y a pas un intérêt de ne pas prendre cet angle-là ou rentrer dans le débat de la droite, de est-ce que c'est extrême droite ou pas, est-ce qu'on peut pas genre ouvrir d'autres angles et en fait juste qualifier des propos qui sont inhumains et dire que vos propos ne sont pas humains, ne respectent pas les droits humains, ne respectent pas la dignité humaine. Est-ce que ce serait pas une approche qui serait possible et envisageable, notamment dans ces questions-là?
Moi, ce que je pense, c'est que De Wever, il joue sur les deux tableaux. Parce que Mélanie, tout le monde est d'accord qu'elle est d'extrême droite. Et la NVA, à l'Europe, ils sont dans le même groupe. Ils le disent, qu'ils partagent les mêmes valeurs. Alors, comment t'es pas d'extrême droite si tu partages les mêmes valeurs que l'extrême droite? À un moment, c'est même absurde. S'ils font un débat parce que ça les dérange d'être qualifiés d'extrême droite, je veux dire, tant mieux. Le job de la gauche, c'est un peu de les déranger. Si on peut même plus dire ce qui les dérange, on a vraiment un problème. Et le discours de que vous dites est vraiment pas humain, excuse-moi, hein, mais c'est de la boxe anglaise. Le gars vient d'annoncer que Netanyahou, qui a un mandat d'arrêt par la CPI pour question de crime de génocide, il pouvait venir en Belgique, on n'allait pas l'arrêter. En suivant, Viktor Orban qui avait dit la même chose. Ça, c'est un discours d'extrême droite, il n'y a pas plus extrême droite que ça. On va dire quoi, c'est inhumain, mais oui, oui. Donc si même le génocide devient acceptable dans leur bouche, mais par contre de leur dire qu'ils sont d'extrême droite, ça c'est pas acceptable, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à inverser tout le discours. Ils ont le droit de dire des horreurs sexistes, mais on n'a pas le droit de leur dire qu'ils sont sexistes. Ils ont le droit de dire des horreurs racistes, mais on n'a pas le droit de dire. C'est eux qui sont vexés si on leur dit qu'ils sont racistes.
Et à un moment, il faut reprendre du pouvoir et leur dire vous êtes sexiste et raciste. Et vous êtes d'extrême droite.
Mais je pense qu'on arrive tout à. J'aime bien. Je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles et sur la boussole de Selma sur cette conférence.
Je peux encore dire une chose. Oui. Je sais que vous êtes avec écologie et vous êtes surtout active dans le côté wallon et Bruxelles. Et on a parlé beaucoup de NVA, mais moi je viens à la base de la Flandre, je viens de Limbourg et malheureusement, et je trouve ça important de le dire. Voreut, qui est censé être la partie pour les classes ouvrières en Flandre, allez, le parti socialiste. Là, tu vois aussi une extrême droitisation qui est en place, en fait. Alors, quand on parle de gauche, même en Flandre, il reste plus parti de gauche, justement, parce qu'ils suivent, ils sont d'accord à, par exemple, rentrer dans les domiciles, ils sont d'accord avec les positions de NVA, et tu vois vraiment que Voreut commence à prendre ce caractère de national-socialisme qui est très grave. Alors, ça veut dire socialisme, mais qui est pour nous et pas pour les autres. Je vous invite d'aussi suivre l'actualité en Flandre et surtout comment la partie socialiste en Flandre a évolué pour tenir ça en compte et pour bien veiller ce qui se passe en Wallonie, en fait.
J'espère que vous aurez retenu que plusieurs choses et que je trouvais que c'était assez, en tout cas moi-même je me suis bien enrichi de cette conférence. On avait des perspectives différentes et des points de vue différents aussi et j'ai l'impression que les points de vue se complétaient et que ça permet aussi de montrer un peu non pas comme la gauche n'a pas d'unité, mais plutôt en fait il y a plusieurs manières de lutter et de lutter contre l'extrême droitisation. Et j'espère que c'est quelque chose qui vous retenir, en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire et que toutes les manières, en fait, l'ennemi est défini et il ne reste plus qu'à. Donc voilà. Merci beaucoup.